السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Aujourd'hui, j'évoquerai deux serviteurs de la Jamaat, deux serviteurs de la Jamaat qui ont quitté ce monde ces derniers jours. Le premier est Mukarram Bashir Ahmad Rafiq Khan Saheb et la deuxième est la doctoresse Nusrat Jahan du département de la gynécologie de l'hôpital Fazli Umar. Toute personne qui vient au monde doit un jour le quitter. Or, chanceux sont ceux à qui Allah accorde l'occasion de servir la foi et de servir l'humanité. Bashir Rafiq Khan Saheb est un ancien serviteur de la communauté. Il était un missionnaire. Il a occupé plusieurs postes administratifs au sein de la communauté. Et il s'est acquitté à merveille de ses devoirs. Il est décédé à Londres le 11 octobre 2016 à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Bashir Rafiq Saheb avait complété sa licence à l'université du Punjab. Il a eu son diplôme de shahid à la Jamiatul Mubashirin en 1958. Il appartenait à une ancienne famille Ahmadi. Sa mère s'appelait Fatima Bibi. Elle était la fille aînée de Maulvi Muhammad Ilyas Khan Saheb, qui était lui-même un compagnon du Messie promis alayhi salam. Le père de Bashir Rafiq Khan Saheb s'appelait Danishman Khan. Et il était né aux alentours de l'an 1890 et il était récipiendaire de rêves vrais et de visions. Bashir Rafiq Khan Saheb, quant à lui, était Ahmadi de naissance. Son père embrassait l'Ahmadiyya en 1921. Et suite à sa conversion, il a été boycotté par les habitants de son village. Feu, le quatrième calife, avait écrit ceci à Bashir Rafiq Khan Saheb à propos de son père. Il lui a dit « Votre lettre me rappelle à tout instant feu votre père et me pousse à prier pour lui. » Il n'y avait aucune contradiction entre ses paroles et ses actions. Il était la personnification de la sincérité et de la vérité. Ce sont là les qualités d'un Ahmadi et d'un croyant. Le quatrième calife écrit : J'étais très proche de votre père, je le suis encore, et mes prières à son endroit sont l'expression de cette proximité. Qu'Allah lui accorde des grâces immenses et qu'il fasse que tous ses enfants soient ses véritables héritiers. Bashir Rafiq Khan Saeb s'était marié à Salima Nahid en 1956. Elle était la fille de Abdurrahman Khan Saeb. Ce dernier était le fils de Khan Amirullah Khan Saeb, un compagnon du Messie promis à l'Islam. Bashir Rafiq Khan a eu 3 fils et 3 filles. Il est entré à la Talimul Islam High School en 1945 à Qadian. Il avait 14 ans à l'époque. Dans un sermon durant ses jours, Hazrat Musleh Maud avait encouragé les jeunes à dédier leur vie pour la cause de l'Ahmadiyya. Dès que le calife avait terminé son sermon, les jeunes ont présenté leurs noms et Bashir Rafiq Khan était parmi ces jeunes hommes chanceux. L'organisation de la Jamaat n'était pas la même que celle d'aujourd'hui et Bashir Rafiq Khan Saheb a reçu une lettre personnelle de Hazrat Musleh Maud l'annonçant que son waqf a été accepté. Bashir Rafiq Khan a continué ses études acadiennes jusqu'au moment de la partition en 1947. Il est retourné dans sa région natale après avoir complété son BEPC ou quelque temps avant la partition. Lorsqu'il étudiait au collège, il reçut un jour une lettre du secrétaire privé qui disait ceci. Hazrat Musleh Maud disait qu'il y avait à Qadian un jeune étudiant d'origine pashtoune qui avait dédié sa vie. Or, on ignore le nom de ce jeune homme et on a perdu les archives en raison de la partition où elles ne sont pas présentes à Rabwa. Essayez de trouver cet étudiant de 1945 qui avait dédié sa vie. Cette lettre arriva chez Bashir Rafiq Khan par hasard et il informa le calife qu'il était l'étudiant en question. Ainsi, le deuxième calife l'ordonna de venir à Rabwa immédiatement et de s'enrôler dans la Talimul Islam College de Lahore et de compléter sa licence. Le troisième calife était le principal de cette institution à l'époque. Le défunt relate, en 1953, les troubles anti-Ahmadis se sont éclatés alors que je préparais mes examens. Nous avons fait nos examens dans ces conditions et j'étais fort triste suite aux résultats de ces examens. J'étais fort triste car j'avais échoué. Or, j'étais aussi troublé. Je me suis demandé pourquoi Dieu m'avait-il montré au préalable les questions de l'examen si je devais échouer. Et d'ailleurs, ces mêmes questions sont sorties pour l'examen. Et de surcroît, le deuxième calife avait annoncé avec conviction que j'allais passer ces examens. Ma foi commença à chanceler à cause de ces questions. Les résultats ont été publiés dans les journaux et j'étais fort triste dans un coin quand mon père m'en a demandé la raison. Suite à ma réponse, il a répondu « Cela ne fait rien, tu referas l'examen car tu n'as pas pu te préparer en raison des troubles dans le Punjab. » Et après quelques jours, son père lui a dit « Chaque fois que je priais pour toi, j'entendais une voix qui disait « Bashir Ahmad a passé ses examens ». Et quand je lui montrais le résultat, eh bien, il ne disait plus rien. Quelques jours après, il me disait « Je reçois la réponse que tu as passé tes examens ». Un jour, par hasard, nous avons reçu beaucoup de lettres dans notre courrier et une lettre avait été envoyée par l'université. J'étais fort surpris quand je l'ai ouverte. L'université disait qu'on m'avait fait échouer par erreur. Après réexamen des papiers, on m'a accordé la moyenne. Quelques jours après, je me suis présenté au deuxième calife et je lui ai raconté toute l'histoire. Le deuxième calife a déclaré, « Je t'avais dit que suite à mes prières, Dieu m'a informé que tu passeras tes examens. Ces résultats prouvent que personne ne peut repousser les promesses divines. » Allah avait déjà pris sa décision. Avoir un autre résultat après qu'Allah ait informé le deuxième calife et son père sera une moquerie des paroles divines. La parole de Dieu s'est réalisée en fin de compte. Hazrat Musleh Maud lui a dit, « Entre à la Jamia et passe le diplôme de Shahed. Je veux t'envoyer sur le terrain pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. » Bachir Afikran relate, « Notre classe a eu l'honneur de recevoir le deuxième calife à quelques occasions à la Jamia. Et il nous a enseigné quelques méthodes pour maîtriser divers domaines de connaissances. Le deuxième calife avait insisté que chaque étudiant devait se constituer une bibliothèque et il devait acheter des livres. Tout étudiant de la Jamia doit se souvenir de ces points. Il y a d'innombrables Jamia dans le monde et d'innombrables Waqfi Zindagi. Ils doivent tous avoir leur propre bibliothèque. Lors de la rencontre avec les missionnaires la dernière fois à Londres, je leur ai dit qu'ils doivent tous disposer d'une bibliothèque personnelle et ne doivent pas dépendre de celle de la Jamaat. Le défunt relate, après avoir eu mon diplôme de Shahed à la Jamiatul Mubashirin, je me suis présenté à la Wakalat Tabshir. Mubarak Misa Ahmad était le Wakil Tabshir à l'époque. Il m'a apporté chez le deuxième calife. Et celui-ci a déclaré, envoyez-le en Angleterre. Avant de me rendre en Angleterre, j'ai accompagné encore une fois le Wakil Tabshir chez le deuxième calife. J'ai eu une audience avec le deuxième calife et il m'a donné des instructions détaillées que j'ai consignées. Il a prié pour moi, il m'a souhaité adieu, il m'a pris dans ses bras et j'étais posté à Londres en 1959 et j'ai commencé à servir la communauté en tant qu'adjoint de l'imam de la mosquée de Londres. En 1959, je suis parti voir Maulana Jalaluddin Shams pour lui demander des conseils avant de me rendre en Angleterre. Maulana Jalaluddin Shams a servi pendant longtemps comme l'imam de la mosquée de Londres et il m'a prodigué différents conseils. Il m'en a prodigué un qui m'a été d'un grand avantage au cours de ma vie. Maulana Jalaluddin Shams a relaté, quand j'étais dans le Levant, eh bien, Munir al-Husni, qui appartenait à une famille nantie, a accepté l'Ahmadiyya grâce à moi. Il était un ancien Ahmadi, un Ahmadi très sincère, et la Jamaat a progressé en Syrie après sa conversion. Jalaluddin Shams relate, sa passion et son enthousiasme à servir la religion n'a cessé de croître par la suite. Munir al-Husni venait à la mission tous les jours après la prière d'Asr. Nous avions une mission en Syrie à l'époque, il n'y avait aucune restriction à l'époque. Et Munir al-Husni préparait des repas pour moi avec beaucoup d'enthousiasme et il insistait beaucoup à cet égard. Et nous consommions tous deux ce repas le soir. Un soir, lors du repas, j'ai dit à Munir al-Husni qu'il avait trop de sel dans le repas et qu'il devait en être vigilant à l'avenir. Munir al-Husni était silencieux pour quelques instants et par la suite il a dit, « Maulana Sahib, vous savez très bien que je possède de nombreux domestiques à mon service à la maison. » Il était très riche, il dit que Quand je retourne à la maison le soir, c'est mon domestique qui délie les lacets de ma botte. Chez moi, je n'ai jamais préparé ne serait-ce qu'une tasse de thé. Je viens ici préparer votre repas afin de mériter le plaisir divin. Sinon, pourquoi donc devais-je préparer votre repas? Si j'ai mis trop d'épices ou moins d'épices dans votre repas, veuillez m'en pardonner, car préparer le repas n'est pas ma vocation. Jalaluddin Shams relate à ce propos que ceci m'a appris que les membres de la communauté nous servent de gaieté de cœur, non pas en raison de notre personne. Ils nous servent pour mériter le plaisir d'Allah et par amour pour la communauté Ahmadiyya. N'oublions jamais que celui qui nous sert nous accorde en fait une faveur. S'il y a des lacunes à cet égard, eh bien, nous n'avons pas le droit de les réprimander, nous n'avons pas le droit de faire des reproches. Allah a accordé à la Jama'a du Messie premier d'Islam des personnes emplies d'une fidélité et d'un dévouement extraordinaire. Il l'a fait depuis le début et il ne cesse de le faire jusqu'à présent. Bashir Rafiq Khan relate, en 1964, Chaudhry Rahmat Khan, qui était l'imam de la mosquée de Londres, a dû retourner au Pakistan en raison de sa maladie. Et j'ai été nommé l'imam de la mosquée de Londres. En 1960, Bashir Rafiq Saheb a lancé le magazine Muslim Herald en anglais. C'était un journal composé de 10 pages au début. Il était l'éditeur de ce périodique et il faisait tout lui-même. En 1962, il a lancé le bimensuel Akhbar e Ahmadiyya suite à l'encouragement de Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Saheb. Bashir Rafiq relate, j'étais le fondateur de ce journal et j'en étais l'éditeur pour longtemps et j'ai eu l'occasion d'écrire des articles régulièrement. Bashir Rafiq était un fin intellectuel. Il a aussi été l'éditeur du journal La Revue des Religions, lancé par le Messie premier d'Islam. Le troisième calife a effectué 8 visites en Europe lors de son califat après 1967. Et Maulana Bashir Rafiq Saheb était de la délégation du calife lors de 7 de ses visites. À 2 reprises, il a servi en tant que secrétaire privé du calife lors de ses visites. Il est retourné au Pakistan en 1970 et il a servi comme secrétaire privé du calife. Et il est retourné à Londres en 1971. Il a occupé de nouveau son poste d'imam de la mosquée de Londres. En 1976, il a accompagné le troisième calife en tant que secrétaire privé lors de ses visites aux États-Unis et au Canada. En mai 1978, le troisième calife est venu à Londres pour la conférence internationale sur la délivrance de la croix. Et les membres de la Jamaat du Royaume-Uni, la Majlis e Amla de ce pays, ainsi que les membres du comité organisateur ont travaillé jour et nuit pour compléter les préparatifs de cette conférence. Ils ont montré un grand exemple de travail d'équipe. Bashir Rafiq Khan était l'imam de la mosquée de Londres de 64 à 70. De 71 à 79, il était l'éditeur de Muslim Herald de 69 à 79. Secrétaire privé du troisième calife de 1978 à 1971. En novembre 1985, il a été nommé comme Wakil Diwan du Tahrik Jadid. Il a occupé ce poste jusqu'en 1987. Il a été Additional Wakil Tafsir de Rabwa de 82 à 85, Additional Wakil Tafsir à Rabwa de 85 à 84, Additional Wakil Tasnif de Londres de 87 à 97, éditeur de la Review of Religion de 83 à 85, président du comité des éditeurs de la Review of Religion de 88 à 95, De 71 à 1985, il a été membre de la Sadr Anjuman Ahmadiyya du Pakistan, membre du comité d'Ifta de 71 à 73, membre du comité de la CASA de 84 à 87. Il a occupé des postes à l'extérieur de la communauté. Il a été membre et vice-président du Rotary Club de Wandsworth. Il a aussi été le président du Rotary Club. En 1968, il a été invité par le président Tubman du Liberia comme invité spécial et il a reçu le titre de chef honorifique du Liberia. Son fils écrit « Mon père accomplissait la prière tahajjud régulièrement, il priait régulièrement, il consignait les noms de ceux pour qui il priait afin de ne pas les oublier. Il envoyait un grand nombre des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il nous a expliqué l'importance des contributions financières. » Le colonel Nazir, le frère du défunt, relate cet incident lorsque le deuxième calife l'avait appelé. J'en ai fait mention brièvement. À l'époque, Bashir Rafiq Khan s'était inscrit dans une faculté de loi. Son père lui a envoyé la lettre du deuxième calife qu'il avait reçue. Bashir Rafiq disait au deuxième calife qu'il pourrait mieux servir la Jamaat en tant qu'avocat. Le deuxième calife lui a répondu « Nous avons besoin d'avocats d'ordre religieux et pas d'avocats de ce monde. L'honneur, la richesse, la renommée, qu'il désire acquérir en ce monde, Allah le lui accordera grâce aux bénédictions de son waqf. » Quand son père a présenté cette lettre à mon frère, c'est-à-dire à Bashir Rafiq, eh bien, il est parti à Rabwa sur le champ avec ses affaires. Et voyez comment Allah a accompli ses paroles. S'il était devenu un avocat, il aurait été un avocat de ce monde. Or, il a reçu les honneurs de ce monde ainsi que l'occasion de servir la religion. Son frère ajoute, tout comme l'a écrit le deuxième calife, il a reçu ce statut grâce aux bénédictions du waqf. Il a eu la renommée, il a eu ce statut, il a eu tout cela grâce au waqf. Il a mené une vie remplie par la grâce d'Allah. Il était aussi très fidèle envers le calife. Il souffrait beaucoup du cœur. Il avait subi une opération cardiaque depuis fort longtemps et à une époque, sa situation était désespérée et Allah lui accordait une nouvelle vie. Il était très faible en raison de sa maladie et non seulement qu'il m'écrivait souvent des lettres dans lesquelles il faisait montre de sa fidélité et de son dévouement, lorsqu'il savait que je participais à un événement quelconque, il y participait certainement. Il venait grâce à son aide à la mobilité ou par quelques moyens. Même quand il était faible, je le voyais présent à la prière de Jumma, il venait à pied. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah exalte son statut et qu'il fasse que ses enfants soient sincères et fidèles envers la Jamaat et qu'ils puissent marcher sur ses pas. La deuxième personne que je voulais mentionner est la doctoresse Nusrat Jahan Malik Saheba, qui était la fille de Hazrat Moulana Abdul Malik Khan Saheb. Elle est décédée à Londres le 11 octobre 2016. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle résidait à Rabwa, quoiqu'elle était de nationalité britannique. Elle venait à Londres tous les ans pour accroître d'une part ses compétences professionnelles. Elle partait dans différents hôpitaux. Elle venait aussi se faire soigner puisqu'elle était malade depuis quelque temps. Après la Jalsa du Royaume-Uni, elle a attrapé une infection pulmonaire. Celle-ci s'est aggravée et ses poumons ont cessé de travailler. Or, de par la grâce d'Allah, elle s'était bien rétablie. Et les médecins avaient de l'espoir. Il y avait aussi le danger que si elle attrapait une nouvelle infection, elle s'en sortirait difficilement. Or, selon le décret de Dieu, elle a eu une attaque soudaine et elle est décédée après quelques heures. Elle est née le 15 octobre 1951 à Karachi. Son père, Muhtaram Maulana Abdul Malik Khan Saheb, était un ancien serviteur de la communauté. Il était le fils de Khan Zulfikar Ali Khan Saheb, qui était originaire de Najibabad, du district de Bajnur, de la province de l'Uttar Pradesh. Le grand-père de la doctoresse Nusrat Jahan a prêté allégeance au Messie premier d'Islam par courrier en 1900. Il a rencontré le Messie premier d'Islam en 1903. Et suite au souhait du Messie premier d'Islam, Hazrat Khan Zulfikar Ali Khan Saheb a dédié son enfant pour la cause de la foi. Et il avait dédié Maulana Abdul Malik Khan Saheb, son fils, dès son enfance, quoiqu'il soit né en 1911. Après avoir étudié à la Madrasa Ahmadiyya, il a complété ses études de Maulvi Fazil en 1932 à l'Université du Punjab. Par la suite, il a eu un très bon emploi, mais son père lui a écrit: je ne t'ai pas envoyé faire des études afin que tu puisses acquérir les biens de ce monde. Un de mes fils lui a aussi œuvré en faveur de la foi. Ainsi, dès qu'il a reçu cette lettre de son père, Maulana Abdul Malik Khan Saheb a donné sa démission. Il est retourné à Qadian et il a participé dans la classe des missionnaires. Sa fille, la docteure Nusrat Jahan, a fait preuve de la même sincérité, de la même fidélité, de la même passion. Elle a étudié au Royaume-Uni. Elle avait fait son MBBS au Pakistan pour ensuite se spécialiser au Royaume-Uni. Là où elle était, elle aurait pu récolter des centaines de milliers de roupies. Or, afin de servir la religion et afin de servir l'humanité, elle a décidé d'élire domicile à Rabwa, une toute petite ville. L'hôpital avait besoin d'elle à cette époque et elle a comblé ce besoin. Et pendant toute sa vie, elle a servi en toute abnégation. Elle a rendu des services qui étaient d'un très haut niveau. Nombre de personnes m'ont fait part de leurs sentiments à cet égard. Il est difficile d'évoquer tous les points qui ont été mentionnés, j'en ferai mention de quelques-uns plus tard. La défunte avait une seule fille du nom de Aisha Nusrat. Elle réside au Royaume-Uni avec son mari et trois enfants. La défunte a complété son MBBS à la Fatima Jinnah Medical College du Pakistan. Elle a ensuite suivi le cursus en COG de la Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Et elle a commencé à servir à la Fazle Umar Hospital en 1985. Elle a commencé à servir à partir du 20 avril 1985 jusqu'à présent. Elle suivait un traitement comme je l'ai souligné. Elle souffrait du foie et elle avait pris congé le 5 avril afin de venir se faire traiter à Londres. Le traitement a eu du succès par la grâce d'Allah et après la Jalsa, elle a eu une infection pulmonaire. Sa santé semblait se rétablir quand il y a eu une attaque soudaine et elle en est décédée. Maqbool Mubashir, son gendre, relate: la défunte avait une grande confiance en Dieu. Elle avait une grande passion pour l'adoration de Dieu. Elle aimait le Coran et elle avait un lien très proche avec le califat. Elle obéissait au califat de gaieté de cœur. Sa priorité était de servir l'humanité, la guérison des malades et leur confort. Je suis moi-même témoin de ces qualités évoquées ici. Il n'y a là aucune exagération. Elle possédait en réalité ces qualités. Elle priait avant d'entreprendre toute opération chirurgicale et avant de commencer tout traitement. Elle faisait de l'aumône quotidiennement. Elle demandait aux aînés de Rabwa de prier pour ses malades. Elle payait les frais de traitement des malades de revenus modestes de sa poche et demandait à ses amis proches de le faire. Elle était très vigilante quant au bien de la Jamaat et elle faisait de son mieux que la Jamaat fasse moins de dépenses afin que la Jamaat ne perde pas une seule roupie. Son gendre relate, je travaillais dans un hôpital privé à Lahore. La défunte me demandait, où as-tu acheté tel produit et à quel prix? Chez qui as-tu acheté tel médicament? Si le prix était raisonnable, elle en achetait de ces mêmes compagnies pour la Faisal Omar Hospital. Elle a servi ses parents avec grande affection. Elle a servi sa mère qui a connu une longue maladie. La défunte a accompli ses devoirs et elle a aussi servi sa mère. Elle a fait preuve d'une grande patience face à sa maladie durant ses derniers jours. Elle était à l'hôpital durant la phase finale de sa maladie pour environ 2 mois. Elle disait tout le temps, « Faites-moi écouter la récitation du Coran. » À la maison, elle encourageait les enfants à accomplir la salat et à réciter le Coran. Elle était très contente lorsqu'elle voyait les enfants accomplir une bonne œuvre, lorsqu'elle les voyait réciter le Coran. Elle les récompensait et priait pour elle. Son gendre rapporte, « Lorsque notre fille a eu 12 ans, la défunte l'a encouragée à se couvrir la tête et à porter le voile. » Elle prodiguait de petits conseils qui étaient d'ailleurs importants en citant des exemples ou des récits en référence à Hazrat Amajan ou d'autres aînés de la communauté. Elle était elle-même très respectueuse des règles de la modestie islamique. Si les parents et les grands prodiguent des conseils aux enfants, elles n'hésiteront pas, ces enfants, à porter le voile. Au contraire, elles le feront courageusement. La docteur Nusrat Majuka travaille à l'hôpital Fazre Omar. Elle relate, je connais la docteur Nusrat Jahan depuis environ 18 ans. Quand j'ai commencé mon internat, le département de la gynécologie a été lancé à l'hôpital Fazre Omar. Ma formation professionnelle a été faite par la doctoresse. C'était une formatrice d'été compétente. On obtenait des directives de sa part pour toutes les affaires de la vie. Elle était solide et intègre. Dieu l'exalté lui avait accordé de nombreuses qualités. C'était une fille obéissante et empathique, ainsi qu'une mère attentionnée. C'était une formatrice très disciplinée et une sœur et une amie pleine d'empathie. Elle ajoute, « Sa vie n'était que sacrifice. » Pour servir la religion, elle a délaissé sa vie personnelle. Ses priorités étaient très différentes de la plupart des gens. Elle disait, « J'ai 2 enfants, le premier est ma fille et le deuxième c'est mon service. » Elle essayait constamment d'améliorer son service de gynécologie. Elle était toujours prête à servir ses patientes. Elle était particulièrement attentionnée vis-à-vis des serviteurs pauvres de la Jamaat. Elle leur téléphonait également régulièrement si leur femme tombait malade pour s'enquérir de leur état. Elle était très aimante envers ses collègues. S'il arrivait qu'elle leur demande de travailler davantage lorsque cela était nécessaire, par exemple si l'état d'un patient le nécessitait, alors elle envoyait des repas pour eux de chez elle. Elle essayait de les aider dans des moments difficiles. Tout le monde a écrit qu'elle avait une relation très solide avec le califat et c'était là une profonde vérité. C'était une relation très grande. Elle continue, depuis l'année dernière, elle m'impliquait dans tout ce qu'elle faisait, dans toutes choses importantes. Elle m'a appris tous les types de chirurgie, de gynécologie. Elle me disait qu'elle avait très peu de temps, mais à ce moment, je ne réalisais pas ce qu'elle voulait dire, car elle était très active. Mais maintenant, après son décès, j'ai compris qu'elle devait le savoir en raison de sa maladie. Elle ajoute, « La défunte nous a quittés, les habitants de Rabwa lui doivent énormément. » Aujourd'hui, tous les yeux sont remplis de larmes et les cœurs sont attristés. J'ai reçu de nombreuses lettres. Tout ce qu'elle a écrit est empli de vérité. La doctoresse Abdul Hay est au Ghana. Elle travaille dans un de nos hôpitaux. Elle écrit « Ma formation initiale a été faite par la doctoresse Nusrat Jahan. » Et quand je suis venu au Ghana, elle est restée en contact avec moi via WhatsApp et par email. Chaque fois que je rencontrais un problème en gynécologie, elle me répondait avec plaisir et elle me donnait des directives. Et dans des moments difficiles, elle me disait toujours d'écrire au calife pour lui demander des prières. Elle dit, lorsque je travaillais avec elle, elle faisait attention à chaque détail. Je me souviens qu'à chaque fois qu'elle voyait une lumière inutilement allumée, elle l'éteignait aussitôt afin que l'argent de la Jamaat ne soit pas gaspillé. Elle exhortait les femmes mariées à préserver leur mariage. Elle disait que les relations de sang ne se brisent jamais. Mais la relation entre un mari et sa femme est basée sur l'amour. S'il n'y a plus d'amour, il ne reste plus rien dans cette relation. Elle a donné un excellent conseil ici. Les couples doivent le suivre, ce conseil. Ces derniers jours, avant sa maladie, quelque temps avant d'être admise à l'hôpital, elle m'a téléphoné et elle m'a dit qu'une nouvelle salle de gynécologie a été construite à Rabwah. Je ne sais pas si je pourrais aller la voir. Elle m'avait également dit qu'il se peut que cela prenne du temps et qu'il ne faut pas attendre et qu'il faut faire inaugurer cette salle par le Nazir Allah. Et j'ai envoyé cette directive et elle a dit que les affaires de la Jamaat ne s'arrêtent pas pour une personne. Le docteur Nouri est le directeur de la Tahir Heart Institute de Rabwah. Elle dit, depuis plus de 9 ans, j'ai eu l'occasion de travailler avec la docteure Nusrat Jahan Saheba, Alel Zubeida Bani de l'hôpital Fazle Omar et au Tahir Heart Institute. Elle possédait des qualités que l'on retrouve chez très peu de médecins d'aujourd'hui. C'était une femme très pieuse qui faisait beaucoup de prières. Elle possédait de grandes qualités morales. Elle était imprégnée de la crainte de Dieu. Elle priait pour ses patients. Elle respectait minutieusement le principe du voile. Elle possédait une grande connaissance du Coran. Elle suivait l'exemple établi par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et le Messie premier, l'Islam. Elle a également étudié au Royaume-Uni et elle venait aussi dans les hôpitaux anglais pour se former. Mais elle a toujours porté le niqab et elle portait toujours la burqa. Elle n'a jamais été victime de quelque complexe. Elle a travaillé tout en respectant le principe du voile. Elle était donc un exemple pour ces femmes, ces jeunes femmes qui avancent comme excuse qu'elles ne peuvent travailler en portant le voile. Le docteur Nouri continue, elle était une experte dans ce domaine. Elle avait de grandes connaissances techniques et elle travaillait tout en mettant à jour ses connaissances. Et elle ne se souciait jamais de l'heure lorsqu'elle travaillait. Elle n'a jamais abusé des avantages disponibles. Elle sacrifiait ses vacances pour des patients en état critique et travaillait plus de 12 heures par jour. Le docteur Nouri ajoute, « Je me souviens qu'une fois, elle a travaillé toute la nuit sur un cas compliqué d'accouchement. Elle informait les patients sur les options possibles en les rassurant, ce qui faisait que les patients avaient une grande confiance en elle. Elle respectait les règles et les principes et elle remplissait ses devoirs avec beaucoup d'honnêteté. » Des gens lui disaient et m'écrivaient aussi qu'elle était très stricte. Si elle était stricte, c'était en raison des principes, mais elle avait un cœur très tendre. La générosité et l'empathie faisaient partie de ses qualités principales, le docteur Nouri raconte. Il y avait une femme âgée qui était admise à la Tahir Heart Institute. Elle a raconté ceci. Un jour, la docteure repartait chez elle en voiture après avoir fini son travail. Quand elle me vit tout près de l'hôpital, sur la route Aqsa, elle s'arrêta et posa sa main sur ma nuque avec beaucoup d'assurance et elle s'enquéra au sujet de ma maladie et sur place, elle me conseilla un médicament qu'elle mit sur une ordonnance et elle partit. Elle était très éloquente. Son père, Maulana Abdul Malik Khan Saheb, était un très grand orateur. Fawzia Shamim Saheba, la présidente de l'Ajna de Lahore, a raconté au docteur Nouri Saheb que lorsqu'elle était invitée à Lahore pour s'adresser au Lajna, sa personnalité et son éloquence avaient un grand impact sur l'audience. Elle s'exprimait au sujet de l'Ahmadiyya, du califat et des grâces d'Allah l'exalté. On voyait dans sa manière de s'exprimer qu'elle était l'ombre de son père, Maulana Abdul Malik Khan Saheb. Elle était fidèle et sincère envers le califat. Elle évoquait les paroles du calife lors des réunions, des séminaires, même pendant ses rondes de service. Son lien avec le califat n'était pas visible que dans ses paroles, mais également dans ses actes. C'était en fait une femme exemplaire. Le docteur Mohammad Arshad Saheb écrit: Dieu lui avait accordé une grande perspicacité et une grande vision. Parfois, dans le cadre de la prise en charge d'un patient, elle modifiait momentanément la procédure et sa décision s'avérait ensuite être correcte. Elle était très compétente, elle maîtrisait parfaitement sa spécialité, elle respectait les principes, elle s'exprimait de manière très claire. Elle avait l'habitude d'investiguer profondément chaque affaire et elle tirait les conclusions pour les prochaines fois. En matière d'hiérarchie, elle était certes imposante, mais elle était très aimante envers ses collègues et elle partageait leur bonheur et leur malheur. Sa préoccupation, sa empathie n'était pas seulement limitée à son cercle familial, ses amis et ses collègues, mais nous avons vu qu'elle était très empathique envers ses collègues, les membres de la famille de ses collègues, les patients et leurs proches. Elle aidait généreusement les nécessiteux et par respect pour eux, elle le faisait discrètement. Le médecin ajoute, elle gardait une trace de chaque chose importante. Il ajoute, d'après ma connaissance, sous sa direction, les archives du service de gynécologie étaient les mieux préservées et les mieux protégées. Un missionnaire du nom de Fuzail Ayaz rapporte, la défunte était emplie de compassion et d'empathie. En 1989, lorsque je servais à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, eh bien, je vins m'installer à Rabwa avec ma femme qui était enceinte d'une fille. Et elle nous a pris en charge, elle a pris en charge ma femme pour l'accouchement ou dans le cadre d'un traitement ou pour un autre problème, mais peu importe, elle était très serviable et attentionnée. Et étant donné que j'ai dédié ma vie, c'est pour cette raison que ma femme et mes enfants ont reçu une attention et un amour particulier de sa part. Il ajoute, nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon qui sont nés à l'hôpital Fazil Omar. La défunte était toujours plus soucieuse que moi au sujet de la santé de mes enfants et de leur mère. Lorsque nous avons eu notre 4e fille, cela devait être 4 filles et un garçon. Alors, notre 3e fille, dit-il, notre 3e fille qui n'avait 4 ans est partie chez elle et lui a dit, « Pouvez-vous nous apporter aussi un frère ?» La doctoresse l'a embrassé et lui a dit, « Prie pour qu'Allah t'accorde un frère. » Et par la suite, quand ma femme était de nouveau enceinte, la docteure a prié de son côté et elle a écrit au 4e calife pour des prières et disait à chaque personne qu'elle rencontrait de prier pour cette femme. Le missionnaire ajoute, « Finalement, Allah nous a accordé sa grâce et nous avons eu un fils. » Et elle est venue en personne chercher ma fille à la maison en lui disant « Allah t'a accordé un frère ». Ensuite, elle nous a déposé, ma femme et moi, dans sa voiture personnelle à la maison. De nombreux patients non Ahmadi venaient la consulter. Elle raconte qu'un mollah de Chignot était venu la voir. Sa femme n'arrivait pas à concevoir. Et grâce à sa prise en charge, Allah l'exalté a fait montre de sa grâce et la femme est tombée enceinte. La docteure a dit que ce mollah est entre mes mains pendant 9 mois et elle lui prêcha énormément sans aucune peur. Tahir Nadim Saab, qui travaille dans le bureau arabophone, relate, la docteure avait plus confiance dans les prières que dans les traitements. Quand je suis venu à Londres, ma femme est restée là-bas. Et elle devait subir une opération. il y a eu un danger quelconque. Et la défunte elle-même nous a raconté qu'à ce moment, j'ai prié en pleurant en ces termes, « Oh Allah, c'est la femme d'une personne qui a dédié sa vie, son mari est parti servir ta religion. Répands ta grâce. » Quelques instants plus tard, Dieu a montré sa grâce et l'hémorragie s'est arrêtée complètement et l'opération n'était plus nécessaire. Au sujet de son hospitalité, Tahir Nadim Saab écrit, dans le cadre de notre émission Al-Hibal al-Mubashir, des Arabes logent dans la maison d'hôte numéro 53 à Londres. La défunte avait aussi séjourné là-bas ainsi que des invités arabes. Elle dit, un jour, elle préparait des galettes dans la cuisine avec sa fille. La défunte a dit, ses invités arabes viennent participer dans l'émission Hiwar. J'ai souhaité préparer moi-même ces galettes pour vous qui servez la religion, afin que je puisse de sorte bénéficier des bénédictions de ce djihad. Mubashir Ayaz Saab est le directeur de la Jamia de Rabwa. Elle évoque la façon de se voiler et la démarche de la défunte. Elle relate, cette docteur se voilait parfaitement comme il le faut. On la voyait faire ses va-et-vient comme un jeune soldat chaque matin. C'est un exemple parfait pour les femmes qui considèrent le voile comme un empêchement. Toute la journée, la défunte travaillait activement sans se plaindre de quoi que ce soit. Jamais elle n'a montré de signe de faiblesse ou de fatigue. Le docteur Sultan Mubashir Saab relate, « Ma maison et la sienne étaient dans le quartier de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. À une époque, il y avait une certaine familiarité entre les deux familles. On se visitait les uns les autres. » Le docteur Sultan est le fils de Dost Mohammad Shahed, qui était l'ami de Maulana Abdul Malik Khan Saheb. Comme Abdul Malik Khan Saheb n'avait aucun fils, Dost Mohammad Shahed lui demandait ou demandait à son fils de leur demander régulièrement s'ils n'avaient pas besoin de quelque chose à ramener des magasins. Donc, ils visitaient leur maison et ils y étaient familiers. Ainsi donc, le docteur Sultan relate, après le départ de son père, eh bien, j'ai continué à leur apporter de l'aide de ce genre. Ensuite, ils étaient collègues à l'hôpital. Ils ont travaillé ensemble comme médecins. Il raconte, si je lui rendais le moindre service, elle me remerciait avec humilité. Elle était toujours reconnaissante envers ma famille en offrant des cadeaux à mes enfants, à ma femme et à moi-même. Elle était gynécologue de profession et elle se rendait au Royaume-Uni une fois par an pour connaître les nouvelles procédures médicales. Elle partait sur ses frais personnels et ne demandait rien à la communauté. Grâce à l'aide de plusieurs personnes, elle ramenait de nouveaux appareils pour l'hôpital. Récemment, elle a travaillé d'arrache-pied pour l'ouverture d'une nouvelle salle opératoire dans l'aile Zubeida Bani. Mais malheureusement, elle n'a pas pu utiliser cette salle, qu'Allah accorde l'occasion aux médecins présents de pouvoir l'utiliser. Il ajoute que le département de la gynécologie ne comprenait qu'une seule chambre dans l'hôpital Fazle Omar. À présent, ce département occupe toute une aile. Le département gynécologie ne comprenait qu'une seule chambre dans l'hôpital. Maintenant, ce département occupe une aile et tout cela grâce aux efforts immenses et aux efforts de jour et de nuit de la doctoresse Nusrat Jahan et de sa passion. Une de ses infirmières, Jamila Saheba, nous écrit qu'ils sont très chagrinés suite au décès de la doctoresse. Elle était une personne très généreuse et avait beaucoup d'affection pour nous tous, ses collègues. Elle prenait très soin de nous tous. Elle nous traitait comme ses enfants. Si un pauvre venait pour des soins, elle lui donnait les médicaments de sa part et retournait l'argent pour ses honoraires. Moussarat Saheba, une autre infirmière, écrit, elle était une formatrice excellente et un médecin très talentueuse. J'ai passé environ 21 ans à ses côtés. Elle était très affectueuse, très sensible, elle venait en aide. Dans des moments difficiles, elle était pleine d'empathie pour les grands, gracieuse envers les petits. Elle avait de l'amour profond pour ses patients. Elle considérait leur souffrance comme la sienne. Elle conseillait toujours le personnel à servir l'humanité et à traiter autrui avec compassion. Elle répondait à chaque appel du calife. Une de ses patientes a écrit qu'en tant qu'épouse d'un Waqfi Zindagi, la défunte était très attentionnée à son égard. Elle dit, une fois, je devais faire une échographie et la défunte a demandé à un membre de son personnel de m'accompagner pour la procédure. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il n'y avait qu'une seule chaise sur laquelle était assise une pauvre femme. L'assistante a demandé à cette pauvre de se déplacer pour que je puisse m'asseoir parce que j'étais la patiente de la docteur. Mais nous avons entendu une voix derrière nous qui nous interdisait de faire bouger cette femme et de la laisser assise. La docteur a porté elle-même une chaise pour moi afin que l'autre femme ne soit pas blessée parce qu'on l'avait déplacée. Tous les patients sont les mêmes, mais d'autre part, elle voulait que l'autre patiente ait un lieu pour s'asseoir. C'est pour cette raison qu'elle a apporté en personne une chaise et a placé sa malade. Un autre médecin relate: la défunte avait un très grand sens de l'honneur pour la Jamaat. Elle avait beaucoup d'amour pour le califat, elle encourageait ses collègues à établir une relation personnelle avec le calife et elle leur demandait d'écrire régulièrement au calife pour des prières. À chaque fois qu'elle écrivait au calife pour des prières, elle demandait des prières au calife pour nous aussi, les membres de son personnel. Et lorsqu'elle recevait une réponse de la part du calife, elle lisait à tout le monde et la joie se lisait dans ses yeux et il y avait un tremblement dans sa voix. Cette personne relate, elle était pour nous source de renouvellement de notre foi. En dédiant sa vie pour la cause de la communauté, elle a non seulement sacrifié les conforts de ce monde et ses propres biens, mais elle motivait aussi les autres à en faire de même en citant son propre exemple. En travaillant avec elle, notre foi augmentait et notre cœur s'emplissait de l'importance du Waqf. Abid Khan Saab du département de la presse relate ceci concernant sa relation et son obéissance au calife. Elle lui a dit une fois que peu importe la parole du calife, même si ce n'est pas un ordre, moi je considère cette parole comme un ordre et je l'applique dans ma vie. Voilà son niveau de loyauté et d'obéissance envers le califat. Nombre de personnes ont écrit à propos de la défunte et il serait difficile d'en faire mention à présent. Une dame a écrit: je partais au bureau de la Lajna de ma maison qui se trouve derrière l'hôpital. La défunte partait quelque part dans la voiture de la Jamaat. Elle m'a demandé où j'allais et j'ai répondu que je partais au bureau de la Lajna pour accomplir telle ou telle tâche. Elle a dit au chauffeur: nous allons la déposer au bureau de la Lajna d'abord, car elle part servir la communauté. Elle a ajouté: j'utilise la voiture de la Jamaat uniquement pour les travaux de la Jamaat. Sa fille Nudrat Aisha Sahiba relate: ma mère était une mère exemplaire et elle était pleine d'affection. Elle priait abondamment pour moi et mes enfants. Chaque fois qu'il y avait un souci, j'appelais ma mère et mon souci disparaissait. Et par la grâce d'Allah, cela s'arrangeait aussi par la suite. Ensuite, elle me demandait de me prosterner en remerciement à Dieu. En dépit de ses grandes occupations, elle a toujours joué un grand rôle dans mon éducation. Elle était également courageuse et elle m'a élevé en tant que mère et père. Et lorsqu'elle remarquait qu'elle ne pouvait donner du temps à son enfant, eh bien, elle disait, « Je n'ai pas pu consacrer beaucoup de temps à ma fille en raison de mes occupations. Cependant, le temps que j'ai consacré à l'humanité est tellement important que Dieu lui-même prendra soin de mon enfant. » Elle me disait toujours que ton grand-père maternel nous a toujours donné deux conseils. Premièrement, d'avoir confiance en Allah et deuxièmement, d'être loyal au califat. Je te conseille ces deux choses, qu'il faut toujours avoir confiance en Allah, il faut toujours être fidèle au califat, toi et tes enfants. Elle ajoute que sa mère avait un grand amour, une grande fidélité envers le califat. Lorsqu'elle est tombée malade, avant qu'on lui place sous respiration artificielle, elle a prié. Et elle a lu le Saint-Coran de mon téléphone. Elle a demandé une feuille et un stylo. Elle a dit que l'on doit écrire régulièrement au calife pour des prières. La fille écrit que « J'ai toujours vu ma mère emplie d'enthousiasme et de loyauté dans les services qu'elle a rendus à la communauté. Ma mère a débuté sa carrière à l'hôpital Fazl Omar dans une petite chambre. D'un côté, il y avait un canapé. De l'autre côté, il y avait une table et une chaise. » Grâce à son engouement à servir et grâce à ses prières, elle a obtenu une salle d'accouchement et un bâtiment indépendant pour le département de la gynécologie. Elle et ses collègues ont tous fait beaucoup d'efforts pour que ce soit un département réussi. Elle partait elle-même pour acheter le matériel médical à Lahore et à Faisalabad. Je partais des fois avec elle. Elle prenait les devis de chaque magasin et essayait d'économiser le plus possible l'argent de la Jamaat. Une fois, ma fille Alia est partie à Rabwa pour 15 jours. Ma mère l'a pris avec elle dans l'équipe pour qu'elle puisse l'aider à taper sur l'ordinateur parce qu'elle était rapide. Elle lui dit que servir la Jamaat est une bénédiction et qu'elle doit profiter de cette bénédiction. Elle était tellement prise par sa profession qu'elle avait le sourire au visage lorsqu'elle entendait le nom de l'hôpital lorsqu'elle était malade. Et lorsqu'elle était de somnolence, elle se souvenait des machines et nommait les marques de ces machines à voix haute. Cela surprenait les infirmières anglaises qui me demandaient ce qu'elle disait. Elle avait une grande confiance en Allah. Après quelque temps, elle n'a pas pu parler. Elle avait perdu la parole lorsqu'on lui a mis un valve. Les premiers mots qu'elle a prononcés étaient « Ma fille, place la confiance en Allah. » Et si je pleurais, elle disait qu'il fallait se tourner vers Allah. Qu'Allah accorde la patience à sa fille unique et qu'elle fasse qu'elle puisse mettre en pratique les conseils que sa mère lui a prodigués et qu'elle soit à la hauteur de ses attentes. Qu'Allah accorde sa protection à sa fille et à ses enfants, qu'Allah exalte le statut de la défunte. Qu'Allah fasse que ceux qui servent dans l'hôpital Fazl Omar fassent preuve de loyauté, qu'ils s'acquittent de leurs devoirs avec loyauté et qu'ils soient sincères envers le Jamaat, qu'ils soient obéissants envers le califat, qu'Allah accorde tel médecin à la Jamaat et qu'il puisse faire avancer ses œuvres. Après la prière de Jumma, j'ai dirigé la prière funéraire de ces deux personnes.